Mon bise, elle est comme ça. Elle va te percuter, mais il n'y a même pas de, y a pas d'échange d'humanité, quoi.
Pardon?
Bah non, le téléphone est plus important que l'être humain. Voilà.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Zoom Zoom Zen pour ce dernier numéro du mois d'avril. Il fait beau, l'été est bientôt là, les arbres sont en fleurs, se balader dans les rues est devenu agréable. Et pourtant, posez-vous la question, est-ce que vous savourez réellement ce bon air ou est-ce que, comme des milliers de personnes aujourd'hui, vous avez le regard rivé sur votre téléphone ? On les appelle les smombies, une contraction de smartphone et de zombies. Eux, ce n'est pas des humains qui veulent manger, mais des notifications qu'ils veulent lire, des messages qu'ils veulent envoyer, des vocaux qu'ils créent, des musiques qu'ils écoutent. Du coup, le monde extérieur n'existe plus. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il mouille, le principal est d'avoir son téléphone dans les mains pour rester à l'affût de ce qu'il se passe sur leurs écrans. Vous en avez forcément croisé, vous êtes peut-être vous-même un smombie. Selon une étude, 65% des piétons reconnaissent marcher ou traverser la rue en regardant leur téléphone. Certains ont même des écouteurs ou un casque sur les oreilles. Sauf que, cette façon d'être adoptée de plus en plus par de plus en plus de personnes peut aussi être dangereuse. Car si une voiture nous klaxonne, si quelqu'un nous demande de l'aide, si des personnes sont une menace à notre sécurité, mais qu'on est plongé dans notre téléphone, on ne le voit pas. Notre attention est ailleurs. Imaginez d'ailleurs scroller sur TikTok pour regarder des vidéos de chats alors qu'un vélo nous fonce dessus. Encore pire, si c'est Cyril Lacarrière sur son vélo électrique, vous avez de grandes chances de finir le fessier par terre. Bref, certaines villes tentent donc de s'adapter à l'invasion de ces smombies. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité qui vient de sortir un livre sur le sujet « Smombie, la ville à l'épreuve des écrans ». Alors, sommes-nous prêts à lutter contre cette nouvelle espèce? Rangez tous vos téléphones et bienvenue dans Zoom Zoom Zen.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et bonjour Hubert Béroche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom Zen cet après-midi. Vous êtes fondateur et président de Urban AI, une organisation internationale dédiée à l'intelligence artificielle en ville. Vous êtes aussi enseignant à Sorbonne, à la Sorbonne Université. Et puis vous avez publié, je le disais, début mars, Smombie, la ville à l'épreuve des écrans aux éditions de l'Aube. Alors vous allez tout nous expliquer évidemment sur cette nouvelle espèce d'humain mi-homme, mi-smartphone, si on peut un peu les décrire comme ça. Mais avant ça, je vous présente les deux smombies à côté de moi, deux espèces assez différentes. Oui. À commencer par ce cher Quentin, lui, 6 heures de temps d'écran par jour si on en croit son iPhone Pro Max 15 qu'il a du mal à lâcher.
Comment vous savez ?
2 heures sur Vinted pour dénicher des pépites, comme sa fameuse veste Valentino Rossi. Mmh. 2 heures sur Canal+, pour suivre évidemment toutes les actus sur son idole Charles Leclerc. Oui. Et 2 heures sur les podcasts du Complètement à la rue, qu'il écoute en boucle pour ne rien louper de son talent. Bonjour, mon cher Quentin.
Bonjour Manon, et effectivement, j'aime bien me réécouter.
Vous avez raison. Et aujourd'hui, un nouveau, du coup, complètement à la rue, que vous allez pouvoir réécouter avec attention. Je suppose que des smombies, vous en avez rencontré pas mal.
Vu que je passe mon temps dans la rue, j'en vois, j'en fais partie, on se croise et on se rentre dedans, avec la même honte, chacun des deux côtés, en relevant la tête. Pourquoi on en est arrivé là? J'en parle avec les principaux concernés dans mon micro-trottoir, ce sera juste avant 16h30.
Et lui, c'est un autre spécimen de smombie. Déjà, il faut qu'il mette ses petites lunettes pour bien voir ses notifications sur son téléphone, sinon c'est assez compliqué. Et puis, passe surtout son temps sur les applications de journaux et de magazines français. Il ne veut pas louper une seule info susceptible d'être dans son Lacar News. Bonjour.
Bonjour Manon Mariani.
Ça va, vous allez bien?
Ça va bien.
Vous n'avez pas mis les lunettes aujourd'hui?
Non, mais jamais, de lunettes à l'antenne.
Il n'y a pas son smartphone devant lui, c'est pour ça. À l'admi, on retrouvera aussi la plus smombie d'entre nous qui poste ses réels sur Insta plus vite que son ombre. Marie de Brouwer viendra nous présenter le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, c'est Tania Dutel qui nous rejoindra pour scroller ou pas avec nous. Et puis moi, je vous présenterai aussi une personne à suivre sur le sujet. Trois amis néerlandais qui ont lancé des événements en Europe interdits au smartphone. Mais d'abord, Hubert Béroche, êtes-vous vous-même un smombie?
Alors, j'essaye autant que possible de ne pas l'être, mais je pense que
vous l'avez vu aussi, c'est pas évident. Et c'est pas évident parce qu'en fait, ces écrans, ces smartphones ont une capacité de captation et de rétention qui est si puissante qu'on a du mal, qu'on est comme hypnotisé finalement et qu'on voulait juste regarder un message, on se retrouve à scroller et on ressort quelques minutes, quelques heures plus tard. Donc c'est pas évident de ne pas être un zombie.
C'est encore pire quand on a un casque sur les oreilles ou des écouteurs ?
Oui, donc en effet, il y a aussi les écouteurs où là, ça peut être effet aggravant, nous isoler encore plus de l'environnement urbain. Dans la définition du zombie, peut-être qu'on en parlera, ça ne prend pas en compte les écouteurs, c'est vraiment sur les écrans et on verra pourquoi peut-être.
Je le disais à l'instant, Cyril est un zombie modéré. Il préfère d'ailleurs l'ordinateur où c'est écrit plus gros pour communiquer. C'est pour ça qu'il a installé l'application WhatsApp sur son PC de bureau. Il en est très fier. Alors Cyril, pas d'écran d'ordinateur devant vous, pas de WhatsApp, l'iPhone est rangé. Vous allez pouvoir nous dire les zombies d'où ils sortent.
Je pensais vous passer la musique de Walking Dead, mais Manon a exigé de l'utiliser. Alors pour la peine, voici une interprétation personnelle du générique de l'Exorciste, La Flûte avec.
Ah bah, c'est pas mal, hein?
C'est l'exorciste!
Oui.
C'est l'exorciste, absolument!
Mais c'est pas les zombies!
Bah non, mais c'est l'exorciste!
Ah, d'accord!
Elle m'a piqué les zombies!
Elle m'a piqué
les zombies, donc j'ai pris l'exorciste! Ce sont, bref, ces zombies, ce sont des zombies. Ils marchent la tête baissée, dos voûté, les bras regroupés. Ce n'est pas un virus qui leur a bouffé le cerveau, ce sont leurs smartphones. Eux, ce sont donc les zombies, la contraction de zombies et de smartphones. Formidable époque, n'est-ce pas, qui invente des mots à tour de bras. C'est d'Allemagne que nous vient le mot, et ça fait même un peu plus de 10 ans qu'il est apparu là-bas à la faveur d'un tragique fait divers. Une ado de 15 ans se fait percuter par un tramway dans la ville d'Augsbourg. Elle regardait son téléphone, elle écoutait de la musique, elle n'a pas regardé autour d'elle, et le tramway est arrivé. C'est là qu'on a commencé à parler de ces zombies. À l'époque, une étude européenne révèle que 17% des personnes interrogées reconnaissent qu'elles utilisent leur smartphone en marchant dans la rue. Et 8% disent même qu'elles le font en traversant la rue. On peut imaginer que ces chiffres ont dû évidemment augmenter depuis.
Du coup, la municipalité allemande a réagi.
Oui, elle a installé des feux de signalisation directement dans le trottoir. Des feux que vous pouvez même voir si vous avez le nez sur votre écran. Une initiative copiée depuis dans d'autres villes, notamment Tokyo. À Hawaï, les autorités ont pris une autre voie, celle de la répression. À Honolulu, il est illégal de traverser la rue en regardant son téléphone, sinon, bam, une amende. Alors, qu'est-ce que ces zombies racontent de notre dépendance aux écrans? Comment les villes doivent s'adapter à ces zombies d'un nouveau genre? Faut-il craindre l'arrivée de casques de réalité virtuelle qui rendraient ça encore plus dangereux? Est-ce que ces zombies vont avoir une influence sur le physique même des prochaines générations? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Hubert Biroche, vous êtes donc notre expert des zombies aujourd'hui. Comme vient de nous le décrire Cyril, le smombisme, je ne sais pas si ça dit smombisme, on peut dire ça. Est-ce que ça peut réellement nous mettre en danger?
Alors, ça peut totalement nous mettre en danger parce que la particularité de ces écrans, c'est qu'ils occultent le réel. En fait, ils ont vraiment cette capacité de captation qui est tellement forte qu'on en vient à oublier ce qui est autour de nous. Et d'ailleurs, peut-être pour faire écho à ce que vous disiez sur la généalogie du zombie, en fait, le zombie, on peut le définir de deux manières. Il y a deux caractéristiques. La première, c'est que vous avez une urbaniste très connue qui s'appelle Jane Jacobs, qui en 1961 publie un livre fondamental qui s'appelle « Sur le déclin et la survie des grandes villes américaines ». Et ce livre fondamentale, elle a un premier chapitre qu'elle appelle « Les yeux sur la rue ». Et en fait, elle nous dit que la sécurité, l'urbanité d'une ville se joue dans ses yeux sur la rue. Et vous voyez que le zombie, en fait, il déplace ses yeux sur la rue vers ce que moi j'appelle dans le livre « Les yeux sur l'écran ». Donc ça, c'est peut-être le premier élément et qui explique que comme on a les yeux sur nos écrans, pas les yeux sur la rue, eh bien, on est distrait et donc plus éveillé à notre environnement, ce qui peut provoquer des accidents. Et peut-être, deuxième élément rapidement sur la définition du zombie, en fait, c'est, je le précise dans le livre, c'est l'émanation d'un système beaucoup plus complexe, d'un réseau d'acteurs, des réseaux d'acteurs du numérique qui ont un intérêt à capter et marchander notre attention. Et ils le font tellement bien qu'on en vient à être hypnotisé.
Bon, on reviendra là-dessus. Oui,
vous dites d'ailleurs que la fabrique du zombie nourrit les passions tristes pour déposséder chaque homme de sa personne. Ça veut dire quoi, ça?
Alors, ça veut dire, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. En fait, on se rend compte quand même que ces acteurs du numérique, ils exploitent au fond des failles qui sont des failles individuelles, c'est-à-dire qu'on va aller parfois se réfugier dans des écrans pour aller chercher des manquements, de manque de confiance en soi, des moments de tristesse, des moments de peine, de doute, d'envie, qu'on veut regarder ce que font les autres, qu'on veut se chercher. Donc, ils viennent en fait exploiter une forme d'humanité un peu qui est égarée. Et ils viennent aussi exploiter des manquements collectifs. Parce que on en parlait, on organisait, il y a une conférence sur ce sujet avec une chercheuse américaine, américaine qui nous disait « Oui, mais si vous nous retirez les smartphones, les écrans, qu'est-ce qui reste ?» Parce que c'est aujourd'hui notre activité au quotidien. C'est ce qu'on utilise pour se réfugier quand on est fatigué, quand on a passé une lourde journée. Mais la question, c'est est-ce que ces écrans devraient être utilisés pour ça ? Est-ce qu'ils ne viennent pas poser un sparadrap sur une blessure plus profonde, sur une incapacité collective peut-être à se connecter, à passer du temps ensemble, déconnecté, sans écran ?
Hubert Béroche, vous dites quelque chose qu'en plus de la démarche chancelante des zombies, les zombies leur ont aussi pris la propagation. C'est quoi cette propagation ?
Alors, c'est en fait une idée que j'ai empruntée à Dominique Boulier, qui est un sociologue de Sciences Po et qui a écrit un livre absolument fondateur sur la propagation, justement. Il explique comment notre époque se caractérise par la propagation, par la viralité. Et j'ai voulu réutiliser son concept, qui est absolument génial, dans l'urbanité, dans la ville, pour montrer qu'en fait, ces zombies aussi se propagent. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons, mais une raison, on va dire, très concrète, très banale, c'est, je pense qu'on l'a tous vécu, lorsque tout le monde autour de soi a les yeux sur son écran, eh ben, on a envie de sortir le sien.
Oui, ouais, voilà. c'est vrai. Mais du coup, on est tous des zombies aujourd'hui ?
On est de plus en plus des zombies. C'est l'étude que vous évoquiez, c'est 60%, 65% des Français. Ouais. Donc en moyenne, vous, Cyril, j'entendais que c'est 6 heures par jour que vous regardez votre écran. Dans certains cas, c'est jusqu'à 8 heures par jour. Donc, oui.
Moi, je suis à 4h30, 5h.
Oui, bon, c'est beaucoup quand même.
On est de plus en plus des zombies, mais ce qu'il faut bien expliquer quand même et bien préciser, c'est que c'est un phénomène qui est systémique, c'est pas individuel. Il faut pas culpabiliser, pointer du doigt en disant un tel passerait beaucoup de temps sur son écran. En fait, on passe du temps sur nos écrans parce que il y a des acteurs extrêmement puissants qui ont investi littéralement des milliards et qui sont très bons. Et donc, c'est la réussite, il faut le dire, d'un certain système, d'une certaine économie de l'attention.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lee, Cyril Lacarrière.
On zoome cet après-midi sur les zombies, cette nouvelle espèce entre l'être humain et le smartphone. Hubert Béroche, fondateur et président du think tank Urban AI et auteur de Zombie, la ville à l'épreuve des écrans aux éditions de l'Aube, est toujours avec nous. Alors Hubert, pour votre enquête, vous êtes parti à Séoul, en Corée du Sud, la chance, j'y ai passé mon été. Là-bas, 61% des accidents de la route impliquent un piéton en train d'utiliser son smartphone. Qu'est-ce que ça dit de notre société ?
Alors, en effet, je m'étais rendu à Séoul, c'était il y a 5 ans, dans le cadre d'un tour du monde que je faisais sur les villes intelligentes. Et ça a été extrêmement marquant, puisque dans le cadre de tour du monde, j'étais étudiant, j'avais pas de connexion internationale, et donc je me suis retrouvé à Séoul, en fait, virtuellement sans smartphone, sans écran, parce que je pouvais pas utiliser mon téléphone. J'étais obligé, contraint de regarder toujours autour de moi, et là, Séoul, taux de pénétration du smartphone, c'est à peu près 86%, donc autant vous dire que tout le monde veut un smartphone, et ce qui m'avait véritablement choqué, c'est vraiment, justement, le basculement de ses yeux sur la rue, sur les yeux sur l'écran, c'est-à-dire qu'il est littéralement impossible de capter un regard.
Oui, vous dites, ils ont tous le dos voûté, la nuque inclinée à 60 degrés et les yeux rivés sur leur écran.
Exactement. Et donc, et ça m'a amené à me dire, est-ce que là, finalement, on n'a pas un nouvel habitant ? Et vous le disiez, en fait, quand vous parliez d'espèces mi-homme, mi-smartphone, c'est ça, un nouvel habitant avec peut-être une nouvelle psychologie, c'est ce que j'esquisse dans le livre, une nouvelle sensibilité. Le fait qu'on a une sensibilité qui est anesthésiée, qui est pixelisée, qui est désincarnée par ce smartphone, et peut-être même une nouvelle vie morale. Et donc, c'est ça un peu toute la question du livre d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas un nouvel habitant qui est en train de produire de nouvelles villes ?
Et alors, il s'attaque, c'est devenu un sujet de santé publique en Corée du Sud. Vous racontez comment a réagi la municipalité de Séoul. Au lieu d'éduquer ses concitoyens, elle a préféré adapter la ville à l'usage des smartphones. De quelle manière ?
Donc en effet, à Séoul, il y a eu plusieurs expérimentations pour installer des feux rouges au sol. Donc ils font écho absolument à ce qui s'est aussi passé en Allemagne. Vous avez également des chercheurs qui ont imaginé une application pour utiliser la caméra de votre smartphone, y mettre de l'intelligence artificielle et quand elle détecte des obstacles, vous envoyez un message sur votre smartphone.
Comme un GPS en fait, comme Waze par exemple.
Comme une sorte de GPS. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des villes qui, voyant le zombie arriver, qui devient un phénomène massif, décident de s'y adapter et décident de faire une forme d'urbanisme pour les écrans.
Oui, en fait, ça veut dire que finalement, on prend le phénomène à l'envers. On ne demande pas aux gens d'être plus responsables, de lever la tête, mais on s'adapte à ça parce qu'au fond, on sait que c'est inéluctable.
Ce qui est une approche. Vous avez raison, c'est une approche. C'est ce qu'on voit à Séoul, c'est ce qu'on voit... Là, c'est extrême, cet urbanisme à l'écran. Et il y a peut-être d'autres approches possibles, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs, toute l'ouverture de ce livre peut-être, de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de s'adapter aux écrans, de faire une ville post-écran, où ce soit la ville qui devienne relationnelle, incarnée, et suffisamment stimulante et engageante pour nous faire lever les yeux de l'écran. C'est toute la question.
Il y a aussi l'exemple de Hong Kong qui a mis en place des pistes pour Smombi, comme nos pistes cyclables. Alors, comment ça marche? Parce que là, je visualise pas du tout.
Alors, c'est en effet... alors, j'avais en tête, ça peut être Hong Kong, en effet. J'avais aussi Xi'an en Chine, où vous avez une piste dédiée, justement, à ces Smombi. Et c'est extrêmement intéressant, parce que ça renforce cette idée. Où, là, vous voyez, ces décideurs publics ont cette intuition de dire que ce Smombi est un nouveau sujet urbain, est un nouvel objet urbain qui nécessite d'avoir son propre voirie en
France. Et c'est quoi son symbole au sol?
C'est alors à Xi'an, c'est une voie avec une interdiction de smartphone écrit dessus.
Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la passer en tant que piéton.
Vous ne pouvez la passer que si vous êtes un smombie, pardon.
Ah d'accord.
Ah, oui. Ah donc okay. C'est pas être une
non, c'est sans interdiction.
Ah, ouais, okay.
Et c'est ça.
C'est en mode obligation.
Ah oui, obligation d'avoir son portable.
Ouais.
C'est fou.
Et en France, oui, pardon. Comment les villes s'adaptent aux smombies? Est-ce que d'ailleurs les villes s'adaptent aux smombies?
Alors c'est une excellente question et c'est vraiment tout le sujet. De dire, est-ce qu'on est condamné à être Séoul, à faire cet urbanisme à l'écran, ou à être Xi'an et d'avoir une voie dédiée pour les smombies, ou est-ce que des alternatives sont possibles? Et tout le travail qu'on fait, nous, à Urban AI, avec plusieurs acteurs, plusieurs métropoles, à Bordeaux et ailleurs, c'est de se dire, mais peut-être qu'une autre voie est possible. Et un signal faible de cette autre voie, c'est le village de Seine-et-Port, qui a décidé, l'année dernière, d'interdire les smartphones dans l'espace public. Ils font un référendum local, et la majorité de la population dit, on ne veut plus de ces écrans dans l'espace public pour protéger la santé, et c'est l'argument qui est utilisé, notre santé sociale, mais aussi la santé de nos enfants, la santé cognitive des générations à venir.
Est-ce qu'on n'a pas une atteinte aux libertés là ?
Alors, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, c'est interdit, en fait, d'interdire smartphones dans l'espace public. Et vraiment, ce que je dis dans le livre, c'est intéressant d'un point de vue symbolique, mais c'est pas... d'un point de vue politique, ce n'est pas réalisable. Par contre, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un système politique qui est à bout de souffle face à une technologie et qui donc va à la limite de la légalité. Maintenant, à nous, et il y a plusieurs possibilités d'y parvenir, de proposer des alternatives aux écrans dans l'espace public.
Vous donnez un autre exemple dans le livre, celui du nuage vert d'Helsinki en Finlande. De quoi s'agit-il ?
Ouais, alors c'est un super exemple qui nous vient en fait d'un collectif d'artistes français, le collectif EE, qui à Helsinki pendant 3 nuits décide d'afficher sur la toile nocturne la consommation énergétique d'un quartier, tout simplement en utilisant un laser vert sur le nuage de vapeur d'une centrale thermique. Et donc ça permettait en fait chaque soir de voir si le quartier avait consommé plus ou moins d'énergie selon que le nuage était plus ou moins grand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait chaque soir, avec une forme de tension dramatique, raconte une chercheuse, les citadins sortaient pour voir quelle était leur consommation collective et ça les incitait à réduire collectivement leur empreinte énergétique.
Lui, la journée, il croise des manifestants, des intermittents du spectacle, des retraités, des parents au foyer, parfois des femmes à qui il glisse tranquillement son 06, et des smombies. Alors,
jamais,
Quentin... Quentin, ça arrive.
Et qu'il y a une seule
Quentin,
femme.
Est-ce que vous avez...
Je vis avec depuis.
Je l'ai aussi.
Est-ce que vous avez croisé des smombies dans votre pérégrination?
Mais tous les jours, Cyril, je vis avec les smombies. Des fois, je vous jure, je tente d'arrêter les gens, ils ne redressent jamais la tête, ils m'ignorent comme si j'étais un fantôme dans la ville. Alors je m'assois, je pleure un peu sur le sort de l'humanité et puis je me reprends car le service public attend mon œuvre radiophonique.
Oh là là, bien sûr, Quentin.
Allez, on commence. Allez, on commence avec ces deux copines qui s'installent sur le banc d'un parc juste à côté de moi.
Les smombies. Un smombie est une personne absorbée par son smartphone en marchant au point de ne plus faire attention à son environnement. C'est un mot valise formé de smartphone et zombies. Ok. Bah moi ça m'est arrivé une fois en fait.
Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Ouais. J'ai failli me faire renverser par une voiture et j'ai traversé en fait sans regarder parce que j'étais sur mon téléphone. La voiture m'a klaxonné très très fort et je me suis fait insulter. Je crois que ça devait être une grosse conne, un truc comme ça.
Ah oui, ça arrive, la courtoisie n'est pas toujours là. Plus loin, cette maman et son petit garçon. Lui, il voit mon micro et s'approche.
Bonjour.
Quel est ton prénom à toi?
Abel.
T'as quel âge, Abel?
8 ans.
Moi je suis enseignante.
Et vous habitez où?
À Thésilleux, dans le Bugey, entre Lyon et Genève.
C'est beau là-bas ?
Oui, c'est la campagne.
Alors, est-ce qu'ils connaissent...
Les smombies ?
Moi, je connais pas.
Moi non plus. Un smombie, c'est une personne absorbée par son smartphone.
Ça me rappelle quelqu'un ce matin, ça, quand on est parti visiter Montmartre.
Ah oui.
Hein, t'étais un peu smombie ce matin.
Je demande à la maman d'Abel si c'est un phénomène qu'elle observe dans son quotidien.
Alors nous, vraiment, on vit à la campagne, dans un village où la moyenne d'âge, donc on n'a pas ce problème chez nous. Mais c'est vrai que je trouve qu'à Paris, quand même, il y a un phénomène... Enfin, on fait plus attention du tout aux autres. C'est un peu aux autres de faire attention. Bah, au smombie, c'est ça, voilà. Mais c'est bien, on a appris un mot. au restaurant, parfois même en famille, chacun est sur son téléphone. Après, tout de suite, ça fait un peu réac. Ben oui, mais bon, je suis en train de basculer dans une classe d'âge où j'essaye de ne pas être réac, surtout, jamais du tout. Mais je reconnais que moi, j'ai été enfant dans les années 90, à l'époque des cabines téléphoniques, des cassettes et des dinosaures, quoi, voilà, j'ai... Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se développent. On passe son temps à discuter avec des gens qui sont plus loin de nous plutôt qu'avec les gens qui sont plus proches de nous.
Lui, maintenant, fend la foule sans smartphone, droit comme un i, bonnet en laine un peu large, un sarouel violet, tapis de yoga en bandoulière.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Gandhi.
Vous avez quel âge ?
51 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis prof de yoga.
On va évidemment supposer que Gandhi a peut-être choisi son prénom. Est-ce que Gandhi sait ce que sont les smombies ?
Ce sont des zombies mignons. Ah, c'est horrible ! Mais tu vois, tu sais, t'as des gens, ils ont leur téléphone, ils regardent comme ça. Donc c'est à toi de faire attention, tu ne pourras pas être percuté, tu vois. Et limite, c'est comme si c'était toi qui étais en tort. Elle est comme ça, elle va te percuter, mais il n'y a pas d'échange d'humanité, quoi. Le téléphone est plus important que l'être humain.
Hey, voilà. Je tente de trouver une explication. Peut-être que les gens s'ennuient dans la rue, dans les transports.
Je dirais c'est parfait. Vive l'ennui. Plutôt que de fuir l'ennui, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser
L'accepter,
c'est pas facile. Parce qu'on veut tout de suite remplir ce vide.
Tu fais quoi quand tu marches, toi ? Tu penses ? Tu réfléchis ?
Ouais, je peux chanter, je peux réfléchir, je peux...
Tu chantes quand tu marches ?
Parfois, ouais, parfois.
Tu chantes quoi ?
Plein de choses. Je ne sais rien, tu es, il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin.
Bon, je le laisse chanter, Gandhi.
Vous avez une passion en commun.
De la chanson.
La chanson, oui.
Et Edith Piaf, visiblement. Et je repars sur cette idée du vide. Il mentionne un vide qu'on cherche à combler en permanence. Alors justement, Alicia a son portable. Qu'en pense-t-elle, elle ?
Je suis peut-être un peu en ce moment bise. Et en même temps, j'ai eu un peu un déclic. Je suis partie vivre en Corée du Sud. Et là-bas, c'est bien plus généralisé. Enfin, tout le monde est sur son téléphone en marchant. Au point qu'il y a des nouveaux systèmes qui sont installés pour traverser la route, le feu, il est sur le sol. Et là, j'ai eu un peu un déclic en me disant, est-ce que c'est ce que je souhaite pour moi et même en France, est-ce que... Donc j'essaye de plus trop le faire, mais c'est pas tous les jours simple.
C'est pas évident. Avant de ranger mon micro, je tombe sur Laurent. À vélo, un vélo plutôt moderne, bien équipé, un casque beige, sonnette apparente. Dernière réaction sur...
Les smombies. Ok, ça existe, j'en ai vu. Des fois, je leur crie dessus parce que j'ai peur qu'ils se fassent taper par des voitures en traversant au niveau des passages pour piétons.
C'est à ce moment précis que je repense à Gandhi. Et si on se reconnectait à soi en extériorisant la colère qu'on a contre les smombies ? Allez Laurent, on va faire comme si un ou une smombie arrivait face à nous et on va extérioriser tout ça. C'est un exercice, allez on souffle.
Attention madame, il y a une voiture. Voilà.
Vous faites plus fort que ça, je suis sûr.
Mais attention, faites attention avec votre téléphone, là. Vous regardez pas ce qui se passe autour. Merci.
Merci Ludovic.
Bonne journée.
Ah oui, je savais que ça lui ferait du bien. On voit bien qu'il prend...
Il s'appelle comment ce monsieur ?
Il s'appelle pas Laurent ?
Laurent Ludovic ? Vous avez dit Laurent Ludovic.
Ah bon ?
On l'embrasse, c'est
Laurent Vic. Mais je savais que ça lui ferait du bien à ce monsieur, oui. C'est vrai. Je suis plus que... Peu importe son nom, visiblement.
Peu importe son nom.
On voit bien qu'il prend de la place quand même, le téléphone, le smartphone, que les regards, les sourires, les échanges spontanés se perdent. Alors j'éteins mon micro, je relève la tête et je me fais bousculer par un smombie. Rideau.
La boucle est bouclée. Quentin, n'est-ce
exactement.
Pas ? Merci beaucoup pour ce micro-trottoir. Alors, Hubert Béroche, est-ce que les smombies, on l'entendait avec Laurent ou Ludovic, peu importe son nom, ont créé du conflit dans l'espace urbain ?
Alors, c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Et à un moment dans le livre, je me pose aussi cette question avec cette idée de dire est-ce que finalement le smombie ne ramène pas une forme de barbarie ? C'est-à-dire que derrière nos écrans, déjà, on perd ce que décrivait un moment un des piétons que vous avez interviewé. Il dit on perd ce regard
Gandhi,
humain.
Ouais.
Gandhi, c'est Gandhi qui dit on perd ce regard humain. Mais en fait, dans ce regard, c'est un sociologue qui s'appelle Zimmel qui disait qu'il y a une force de synthèse civilisationnelle très forte, rien que dans ce regard humain. Donc ça, c'est un premier élément. Et ce qui m'inquiétait aussi peut-être dans le livre, c'est cette idée que justement, ces smombies peuvent être instrumentalisés, c'est-à-dire on l'a vu avec une forme de coup d'État que fait Donald Trump en 2021 lorsqu'il prend le Capitole. Mmh. Et en fait, ses partisans, la majorité des personnes qui sont là sont rassemblées par l'écran. Et donc, en fait, la force insurrectionnelle se mobilise par l'écran. Et donc là, en effet, on peut se demander si, à ce moment-là, ces écrans ne contribuent pas à une inflation de la violence et à coordonner une certaine action politique belliqueuse et même insurrectionnelle.
On est souvent vent debout contre les smartphones, notamment dans le métro. Il y a cette image qui circule parfois sur les réseaux où on voit tout le monde avec son smartphone. Et puis, en fait, 100 ans avant, tout le monde avec le journal. Est-ce qu'on faisait autre chose avant le téléphone portable? Comment on occupait ce temps-là, cet espace? On n'était pas là en train de regarder les gens et à dire bonjour à tout le monde.
Il y a une nuance près, en effet, quand même, entre le journal et l'écran, même si, en effet, c'est vrai que l'image peut sembler similaire, c'est la force de captation de l'écran. C'est-à-dire que sur le journal, on a nécessairement quand même un usage qui est intentionnel. On lit et on a un usage qui est actif. Ce qui me dérange avec le smombi et cette figure de la consommation de l'écran, c'est que c'est une figure qui est passif, qui est attentiste et où on se fait piégé. Mais en fait, on se fait tellement piéger. Vous savez, il y a une anthropologue qui parlait de la machine zone pour dire c'est là où on va quand on commence à scroller. Et vraiment, il y a une altération spatio-temporelle. Donc, c'est ça qui est un peu gênant. C'est le fait qu'on nous emprisonne en un sens dans ces écrans.
La maman du jeune Abel, qui refuse d'être une réac, elle nous dit une phrase quand même qui est intéressante. On parle peut-être davantage à nos proches qui sont loin qu'aux gens qui nous entourent. C'est pas mal non plus de parler plus à sa famille, même
par téléphone. Mais parce qu'on communique en fait sur nos smartphones aussi.
Et vous avez raison, et c'est pour ça que il faut toujours essayer d'avoir une forme de finesse dans cette analyse des écrans, en se disant il y a différents usages des écrans. Tous les smartphones ne sont pas les mêmes. Il y a des usages intentionnels de l'écran, et on en parlait régulièrement quand vous utilisez votre écran pour faire une recherche, ou quand vous utilisez votre écran en effet pour communiquer avec des parents qui sont loin, ou même pour certaines personnes qui n'ont pas le choix par rapport peut-être à certaines maladies, certains handicaps, l'écran peut être salutaire. Donc il ne faut pas non plus être manichéen. Par contre, il faut faire attention parce que ces écrans ont une puissance de dérive qui est très forte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y va juste pour regarder un message et on se prend dans la mécanique du clic et on en ressort quelques heures plus tard.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lhuy, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Alicia, notre réalisatrice, s'amuse beaucoup. Ouais. Ils se baladent avec un smartphone devant leurs yeux. Ils ne font plus attention au monde extérieur qui sont les smombies, cette nouvelle espèce de piéton qui ne peut plus faire 2 mètres sans son téléphone. On continue d'en parler cet après-midi. Mais juste avant, on accueille la plus smombie d'entre nous. Forcément, c'est aussi la plus star. Ah oui. 172K sur Instagram, ça se mérite et ça s'entretient. Bonjour Marie De Breuer.
Bonjour.
C'est vous qui nous présentez le Zoom Zoom Test cette semaine.
Vous voulez une intro décalée? Eh ben c'est parti. Musique.
On est vannes du resto, quoi. D'accord, pas de problème.
Oh, je voulais piquer, voilà. Je vous donnerai un petit point d'SACD. Voilà, samedi, j'étais au concert de Jul. Aujourd'hui, je chante les Cranberries. C'est quoi demain? Imiter Johnny, faire du air guitar. Je n'ai pas signé pour faire Incroyable Talent 5 fois par semaine, puisque je n'ai rien signé et fait ce quiz gratos. En tout cas, ceci
erreur. Erreur.
Ah, oui, de débutante, puisque vous voulez. En tout cas, ceci n'est pas un quiz sur les fruits rouges ou la cystite, rapport aux cranberries, un quiz sur les smombies, bien sûr, vu que c'est le thème de l'émission. Alors, on commence avec une petite séquence chiffre bien déconne. D'après vous, un Français consulte son téléphone A, 150 fois par jour, B, 220 fois par jour, C, 340 fois par jour.
B.
Eh bien, c'est Quentin, réponse B, 220 fois par jour. Et
je veux pas, Cyril.
Si, mais j'allais dire C, vous l'avez déjà dit, donc ça va rien.
J'ai dit B, moi.
Oui, mais maintenant.
Ah oui. Bah, les chiffres datent de 2016, donc ça se trouve, c'est encore plus. Ah, et oui, c'est une moyenne. Rien.
Pour ça, c'était pas bon.
Cyril, par exemple, lui, n'est que 60 fois sur son téléphone senior à clapet avec les grosses touches. sachant, les amis, qu'il y a une différence entre consulter et juste toucher son téléphone. Parce que là, on peut le manipuler jusqu'à A, 700 fois par jour, et c'est énorme. C, B, 500 fois par jour, et c'est beaucoup. C, 400 fois, et c'est bien trop.
C.
Bref, point Manon.
Mais oui, on le touche tout le temps.
On touche 700 fois par jour son smartphone. Et vous aurez remarqué qu'on a évité la blague « Quel est le point commun entre un smartphone et une usagère du métro ?» Toucher le smartphone. Bref, prochaine question. Saurez-vous...
Ah oui. Prochaine
question. Bon, Belvonne, pas ouf. Prochaine question, saurez-vous me dire ce qu'est le fubbing? A, c'est quand on doit laisser son smartphone à l'entrée du club. B, ce sont les problèmes articulaires liés à l'usage intensif du téléphone. C, c'est quand on oublie qu'il y a des êtres vivants autour de soi en restant bloqué sur son téléphone.
B. C.
Point Quentin. Ouais. Et c'est
vous voulez pas faire une émission de ça?
C.
Non.
Vous l'aviez proposé en réunion peut-être.
Certainement.
Ça a, été, ça a été recalé.
Oh, je le relancerai ce soir.
Manifestement.
C'est vrai qu'il y avait réponse D, c'est un thème de Zouzouzen. Il y a quand même de fortes chances pour que les smombies fassent du fubbing, dérive évoquée in English, à plusieurs reprises par Cyril dans ses petits billets d'humeur.
The Responsible Corporation.
Ah,
Confessions of a Work
de Mathieu Noël.
Oui, oui. Cela touche maintenant.
Addiction. Right. Lifebook.
Ah, on fait tout.
Award.
Ah bah oui, c'est une compile.
C'est la complète, Cyril.
Et voilà ce qui arrive quand on apprend l'anglais en écoutant YouTube.
Hey, mais ça serait pas le moment d'apprendre en s'amusant plutôt que de dire du mal de nos téléphones cellulaires? Hey, mais ça serait pas le moment de prendre l'autoroute du fun direction le Gai Savoir? Et bordel, j'en peux plus de ces lancements, Gérald, qui veut faire du mari là, alors qu'il y a que Marie pour faire du mari. Cette transition est beaucoup trop longue.
La grosse tête, la troisième personne.
Ouais, ça a l'air de loin.
Laquelle de ces affirmations est vraie?
Belle référence.
Il y a plus d'abonnements téléphoniques que de droitiers dans le monde. B, il y a plus d'abonnements téléphoniques que d'humains dans le monde. C, il y a plus d'abonnements téléphoniques que de voitures dans le monde.
Les trois. Oh non.
Point Cyril.
Oh, ah, c'est bien vu.
Pour une fois.
Bravo, bravo. 8 milliards d'êtres humains, dont 90% de droitiers, pour 8,6 milliards d'abonnements et 1,4 milliard de bagnoles. Ça fout le vertige, n'est-ce pas?
Ouais.
Et en parlant de vertige, oh, les transitions sont dingues.
On a direction tous une tour. Bon, ok.
On a tous eu cette impression que son téléphone vibrait.
Ah ouais, tout le temps.
Hello.
Alors qu'en fait, non. Eh bien, cette sensation, due vraisemblablement à une utilisation intensive de son téléphone, a un nom. Lequel? A, une hallucination numérique. B, le TRM, trouble du réflexe mobile. C, le syndrome de la vibration fantôme.
B. C.
Point Quentin, ouais. Bravo. C'est
donc
le syndrome
Quentin
de la vibration fantôme. Très, très fort.
Depuis qu'il voit les réponses, il est très fort.
Bah, c'est ça.
Ouais, c'est fou.
Vive les vibrations, vive les fantômes et victoire de Quentin.
Quentin.
Évidemment. Oh. Voilà.
Je suis impressionnée.
Que de talent.
J'en profite parce que Mathieu revient la semaine prochaine.
Vous avez raison.
Merci
Quentin. Alors, qui sont les smombies, ces êtres mi-humains, mi-smartphones? C'est la question qu'on se pose cet après-midi avec notre invité Hubert Béroche, auteur de Smombies, la ville à l'épreuve des écrans, aux éditions de l'Aube. Alors Hubert, on en a déjà un peu parlé, mais qui a intérêt à voir apparaître de plus en plus de smombies? Est-ce que c'est les GAFAM, tout simplement?
C'est, en effet, c'est la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire qui profite de ces smombies, qui les instrumentalise et qui parfois les arsenalise. Et c'est en premier lieu, vous avez raison, les acteurs du numérique. Donc pour les nommer, ça va être des Google, des Meta, des TikTok, dans une moindre mesure, acteurs du streaming, du Netflix, comme Netflix. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces acteurs en fait qui cultivent en un sens les smombies, et ce sont ces acteurs aussi qui, par l'intermédiaire du smombie, refont la ville de manière un peu plus ou moins invisibilisée. Donc ils deviennent vraiment des acteurs prédominants dans nos vies et nos villes.
Vous citez un philosophe allemand qui a théorisé, je cite, le caractère blasé des citadins. Quel rapport avec le smombisme?
Oui, en effet, la première partie du livre essaye vraiment de comprendre en quoi ce smombie est un nouvel habitant. Et je m'intéresse à la sensibilité, à la sensorialité du smombie. Vous avez un philosophe allemand, Georg Simmel, qui a été le premier, début du XXe siècle, à étudier le citadin. Et il dit, en fait, le citadin, ce qu'il caractérise, c'est le fait d'être blasé parce qu'on a trop de sollicitations sensorielles, en fait. On est blasé parce qu'on est obligé de se protéger de toutes ces sollicitations, et peut-être que le smombie, en fait, lui, n'est pas blasé, c'est juste qu'il utilise son écran comme rempart avec ses sollicitations.
Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un smombie citadin et un smombie rural?
Oui.
Voilà, donc en effet, l'idée, c'est on pourrait aller, j'essaye un moment de le faire dans cette finesse d'analyse, en regardant un peu tous les différents smombies. Vous avez raison, il y a un smombie qui est urbain et qui est donc, si vous voulez, mobile. J'analyse un moment, les hikikomori aussi, vous savez,
on en a parlé dans cette émission.
Vous avez fait une émission. Ouais, voilà, donc les hikikomori qui sont aussi qu'il y a un certain usage de l'écran où là, on ne sort plus de chez soi. Et donc, dès qu'on analyse le phénomène, on se rend compte que, vous avez raison, il n'y a pas un smombie, ce n'est pas une réalité monolithique, mais il y a différents smombies.
Et est-ce que, par exemple, quand on est dans sa voiture et qu'on regarde notre GPS, qu'on met de la musique, etc., ça compte dans la catégorie, entre guillemets, smombie?
Alors là, c'est une bonne question. Je ne me la suis pas posée. Oui. On pourrait étudier ce phénomène. C'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le cadre du livre, c'est le piéton,
oui,
avec, lorsqu'il regarde, en fait, lorsqu'il est hypnotisé par son smartphone dans l'espace public.
Mais alors, vous dites, le smombie est avant tout un égoïste. Et j'ai envie de dire, avec les réactions que j'ai eues dans la rue, il est un peu tout puissant aussi. Puisqu'il est piéton, il a le droit même de traverser la route où il veut. Même si on renverse un piéton en dehors des clous, on sait que souvent, c'est la personne qui est au volant ou celui qui est en vélo qui est en tort. Est-ce qu'il abuse pas un peu de son pouvoir de piéton, le smombie?
Alors, Je sais pas s'il l'abuse intentionnellement. Voyez, moi, dans le livre, j'ai plutôt l'impression que ce zombie, en un sens, est une forme de victime, ou en tout cas qu'il est utilisé par un système, il est instrumentalisé. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, lorsqu'on veut s'attaquer au problème des écrans, c'est pas au zombie qu'il faut s'attaquer, c'est pas à l'utilisateur des écrans, c'est à ceux qui instrumentalisent le zombie. Donc lorsqu'on veut réduire la place des écrans, que ce soit dans la vie des grands comme des enfants, en fait, le problème, il est beaucoup plus systémique. Il est social, il est politique, et il faut s'attaquer à ces acteurs du numérique.
Mais du coup, par exemple, les villes qui mettent en place des amendes contre les zombies, c'est une bonne solution ?
Je suis jamais pour, en tout cas, l'interdiction. Je pense que plutôt que d'interdire, il faut essayer de créer des modèles qui soient plus désirables. En fait, pourquoi les gens regardent leurs écrans ? Quand ils regardent les écrans, en fait, ils nous disent ce que j'ai sur mon écran est plus intéressant que ce que j'ai autour de moi. Et donc,
il faut faire quoi ?
Donc, il faudrait.
C'est quoi une ville désirable ?
Bah oui.
Donc, il faudrait contrebalancer ça, c'est-à-dire faire en sorte que ces yeux sur l'écran, voyez, on en revient à notre première définition. Ouais. Eh bien, on ramène les yeux sur la rue. Alors, comment on ramène les yeux sur la rue ? On rend l'espace public de nouveau engageant. On le considère comme une technologie, on le considère comme un médium. Et comme une technologie capable d'attirer l'attention.
Vous prenez par exemple les exemples de San Francisco et de Montréal, comment ces villes ont changé de morphologie avec l'arrivée du smartphone.
Donc là, en effet, c'est un moment, ce qui m'intéresse, c'est la forme de l'économie de l'attention. C'est-à-dire comment cette économie est en train de réagencer de manière plus ou moins invisibilisée nos villes et notamment des centralités. Et ce dont on se rend compte, c'est que les écrans, et entre autres notamment le télétravail, est en train d'éroder certaines centralités. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler depuis chez soi. Et donc ce mouvement pendulaire qu'on faisait et qui créait de grosses centralités, ce autour de quoi historiquement se construisent les villes, hein, depuis des décennies, eh bien, à cela se substitue une morphologie un peu plus diluée, avec des centralités moins fortes, ce qui a des conséquences immobilières, sociales, absolument phénoménales.
Est-ce qu'un des risques pour faire sortir les gens du nez de leur téléphone, ce n'est pas de mettre des écrans partout, finalement, et qu'on se retrouve partout comme à Broadway ?
C'est une proposition. C'est-à-dire que certaines villes, en effet, se disent que la solution, c'est de passer de l'écran individuel à l'écran collectif. Oui. Ce que je dis dans le livre, et ce qu'on défend fermement chez Urban AI, c'est qu'en fait, c'est l'écran qu'il faut dépasser. Le problème, c'est pas tant qu'on ait un écran pour un ou un écran pour cinq, c'est l'écran en lui-même. Donc, comment est-ce qu'on arrive à matérialiser la donnée autrement ? Comment est-ce qu'on arrive à créer des technologies, et c'est dans ce sens que le livre n'est pas contre le progrès, des technologies qui dépassent ce monopole des écrans ?
Oui, mais alors vous dites gamification urbaine, l'ensemble des procédés qui peuvent transformer la ville en espace jouable. Ouais. Ça veut dire quoi ? On met des paniers de basket un peu partout ?
Non, alors gamification urbaine, c'est comment finalement on engage le citadin dans l'espace public et comment on l'incite à jouer, en partant du principe qu'en fait le jeu, c'est un moyen d'engager le citadin et c'est un moyen aussi de l'engager autrement dans l'espace public. Donc ça peut être par de la couleur, ça peut être par du design sensoriel, ça peut être par du mobilier urbain qui soit ludique.
Mmh.
Exactement, vous avez raison, c'est aussi remettre du beau, absolument.
Ah oui. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Je vous présente la mère des Smombies. Encore plus fou de les avoir enfantés, elle les fait grandir chaque jour depuis 3 ans dans cette émission où elle décortique, épluche les réseaux sociaux, leur donne du sens pour donner justement un sens à ce fléau de l'humanité, Hubert. Manon, c'est le diable.
Non, pas. Je vous remercie, Quentin.
Hier, en sortant de la radio, elle est passée devant moi en allant au RER. J'avais garé mon scoot à côté, elle scrollait, ni au revoir, ni bonjour, ni signe de la main. Vraie histoire.
C'est
hein.
Vrai ?
Vraie histoire.
Oh, je m'excuse, Quentin.
B de bail. Je me suis dit, peut-être que c'est la personne à suivre, mais non, ça c'est elle qui me la raconte.
Je vous présente Iliac Nepelou, Jordi Van Bennekom et Valentin Klok. Ils ont la trentaine, ils sont néerlandais et ils sont à la tête d'un concept qui cartonne, organiser des soirées sans téléphone portable. Les trois amis ont cofondé le Offline Club il y a 2 ans à Amsterdam. Leur but, reconnecter les gens entre eux via des interactions réelles. Ils créent donc des événements où les smombies sont interdits, tout simplement parce que les smartphones sont interdits. Des sortes de retraites digitales détox qui peuvent être des rencontres dans un café, des séjours en campagne ou un brunch le dimanche, tout simplement. Ilia, Jordi et Valentin ont eu l'idée de ce concept après une retraite numérique dans la campagne néerlandaise en 2021 qui les a profondément marqués. À leur retour, ils ont organisé des week-ends de lecture sans téléphone, puis ils ont créé le Offline Club. Alors au départ, ils pensaient que ça allait rester assez local, sauf que leur initiative est devenue virale et les demandes se sont multipliées. Aujourd'hui, le Offline Club a des antennes partout dans plusieurs villes européennes comme Londres, Barcelone et même Paris. Quand on arrive à un événement, c'est simple. On place place son téléphone dans un petit coffre, puis on profite du moment présent. Pour Ilia, c'est plus qu'une simple détox, je le cite, hein, il a déclaré à Libération « La solitude et la santé mentale sont de gros problèmes aujourd'hui. Nos événements permettent de faire des rencontres et de se sentir appartenir à une communauté. » La déconnexion, on le sait, est un sujet qui fait de plus en plus parler. Léna Mafouf avait par exemple documenté son mois sans écran au début de l'année, quand même la première youtubeuse de France s'y met, c'est qu'il y a un vrai sujet. C'est donc pas très étonnant que les offline clubs cartonnent autant. Quand on regarde d'ailleurs le planning de leurs événements à venir sur leur site, il y en a au moins un par semaine qui est organisé dans 12 villes différentes, c'est quand même énorme. Alors on parle souvent des enfants et des ados et de leur temps d'écran qui augmente d'année en année, mais c'est aussi les parents qu'il faut éduquer à ce sujet. Si un ado voit son papa constamment le nez sur son téléphone, et bah forcément l'exemple donné est problématique. Alors peut-être testons les détox après tout, ça peut nous faire du bien.
Merci Manon. Hubert Béroche, ce genre d'initiative, ça semble prendre de l'ampleur, mais est-ce que se déconnecter, c'est pas aujourd'hui quelque chose de pour les privilégiés?
Alors c'est une très bonne remarque, et en effet, alors vous avez raison, Offline Club prend du pouvoir. Ils ont fait d'ailleurs un post suite au blackout qui a eu lieu en Espagne et au Portugal, en disant, bah, vous voyez, là, finalement, on retrouve une sociabilité qui est intensifiée. Alors peut-être... Vous avez entièrement raison. Le problème, c'est qu'en fait, ça reste une solution qui est éthique. Et cette solution est éthique parce que justement, le pouvoir public peine aujourd'hui à s'emparer du sujet et à en faire un sujet qui soit vraiment collectif. Et donc, on a comme ça dans le monde un peu des différentes éthiques, différentes communautés qui s'organisent. Mais le problème, c'est que ça va concerner des privilégiés ou certains acteurs seulement. Donc la question, c'est comment on en fait un sujet qui soit véritablement politique et comment on en fait un sujet qui soit aussi inclusif que possible.
Manon Mariani, Quentin Lumi, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Depuis que Pierre Courade a eu un vélo électrique pour son anniversaire, sa vie a changé. Il se balade tout guiret dans les rues de Paris, des étoiles plein les yeux. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, évidemment sa préférée. Son smartphone n'existe plus. Mais on a découvert qu'il développait une autre forme de smombisme, le shortisme. Et oui, lui, c'est pas les écrans qui attirent son regard, mais c'est les shorts. Et il est ravi, car c'est le printemps et ils sont tous de sortie. Bonjour Pierre.
Et puis surtout, il faut en profiter, il fait moins 10 la semaine prochaine.
C'est vrai, vous avez raison. Pierre, c'est l'heure de votre petit carnet, tout ce qu'on s'est dit dans l'émission, résumé en une minute.
Les smombies, aujourd'hui, contraction de smartphone et de zombie, une nouvelle espèce d'être humain mi-homme, mi-téléphone. C'est Hubert Béroche, spécialiste de l'intelligence artificielle en ville, qui est venu nous l'a présenté. Il se définit lui-même comme smombie, en même temps difficile de ne pas être happé par son smartphone. Il nous captive, il nous attire, il attire notre attention, il exploite une forme d'humanité et comble un vide. Nous sommes hypnotisés, on oublie ce qui est autour de nous et le phénomène se propage. Le smombie est une espèce tellement envahissante, nourrie par les acteurs du numérique, qu'elle pousse désormais certaines villes à s'adapter. Hubert Béroche nous a parlé par exemple de Séoul, où 61% des accidents impliquent des piétons les yeux rivés sur leur smartphone. Pour les éviter, la capitale sud-coréenne a développé des feux rouges au sol. Hong Kong, de son côté, a même mis en place des pistes pour smombie. Tristesse. La véritable révolution pour notre invité serait de forcer les citoyens à lever les yeux de leur téléphone. Pour cela, il faut rendre la ville plus désirable. On sera tous d'accord, hein, lorsqu'on traverse Paris à pied ou à vélo, qu'on se rend compte qu'on vit dans la plus belle ville du monde. Mais imaginez les habitants d'Alençon, au hasard. On comprend déjà mieux pourquoi Quentin a passé toute son adolescence les yeux rivés sur son smartphone. À l'époque, il checkait encore ses likes sur Cougar d'abord. Une activité assez peu dangereuse, hein, sachant que la voiture n'est arrivée que l'an dernier dans l'Orne.
Il y a une voie verte à Alençon. Et il a certainement traversé à vélo, mais il s'en souvient pas.
Oh, absolument pas, non.
Merci. Encore une invention d'Anne Hidalgo. Vous réglerez ça tous les deux en antenne.
On va bien régler ça.
Elle se déplace tel un smombie tout en disant, en hurlant qu'elle hait les smartphones. Daniel Dutel, c'est à vous.
Daniel.
Oui, Daniel Dutel.
Daniel
Dutel. C'est votre petit nom.
Eh ben super.
Peu importe votre nom. Allez-y.
Écoutez, effectivement, je ne cesse de me plaindre tout le temps que les téléphones nous pourrissent la vie, qu'avant, les gens répondaient aux mails quand ils étaient devant leur ordinateur, chez eux, c'est chez eux. Et pourtant, je réponds aux mails, aux messages comme la plupart des gens, mais que voulez-vous, je suis Gémeaux, j'ai une double personnalité. Donc, thème du jour, les smombies, contractions, zombies, smartphone. Ok. D'après une étude réalisée par les étudiants du CELSA, 95% des usagers du métro regardent leur smartphone et c'est terrifiant. Mais en même temps, que voulez-vous qu'on regarde ? Les 5% restants regardent les écrans des autres, justement.
C'est vrai.
Parfois, je vois des gens regarder l'écran de la personne à côté, j'ai envie de dire, tu veux que je t'aide ? Mais j'ai pas envie de me prendre une tarte dans la gueule, donc je la boucle et je regarde mon téléphone. Je joue au Scrabble et je donne tout parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un des 5% à côté de moi. qui va regarder, donc je peux pas perdre. Tu vois, je peux pas faire de faute d'orthographe et par conséquent, à chaque fois, je me dis qu'il faut que j'achète la vitre teintée pour que la personne à côté voit pas mon écran. Mais en sortant du métro, j'oublie. Et je suis donc prise dans mon tourbillon infernal à me poser 1000 questions sur mes parties de Scrabble, alors que pourtant, même sans ça, j'ai de bonnes statistiques. Hein. Je suis à 86% de victoire, mais je veux pas que quelqu'un assiste aux 14% de défaite. Donc arrêtez de regarder l'écran d'autrui, s'il vous plaît. Autre information, non pas des moindres, à Séoul, 61% des accidents de la route impliquent un piéton en train d'utiliser son smartphone. Et il est vrai que ça nous arrive à tous de marcher dans la rue et de devoir slalomer entre les gens ou même de se les prendre. Un jour, je marchais derrière une jeune femme, métro, il y avait du monde, elle s'est arrêtée net pour regarder son téléphone. On avait un pas d'écart, donc j'ai bêtement pas pu anticiper son arrêt et je l'ai donc bousculée sans faire exprès. Elle a fait et j'ai rien dit. J'avais intégré que c'était de ma faute. Ah, selon elle, c'était tout vu, hein. Donc j'ai rien dit. Mais sur le chemin après, dans ma tête, la dispute qu'on a eue. Je m'en rappelle encore. Je sais pas si elle a vécu la même chose que moi. Mais je te l'ai remise en place. En 2-2, elle faisait plus ses psss. Non, là, elle a dit pardon. Elle a rangé son téléphone dans son sac et elle a marché sans plus broncher. Bref, pour régler les accidents piétons, la ville de Séoul a installé dans certains endroits des panneaux LED au sol pour les avertir des feux de circulation. Et j'apprends que la RATP a commencé à mettre en place également des systèmes pour prévenir les piétons, notamment sur une ligne de bus. Si le chauffeur voit un smombie, il actionne un klaxon qui déclenche des ultrasons qui sont reçus grâce à une application nommée EMI, qui envoie une vibration sur le téléphone accompagnée d'un écran rouge et d'un gong dans le casque. Je pense que c'est bien que les chauffeurs de bus aient cette charge en plus, parce que ça suffit pas de faire en sorte déjà de faire arriver les passagers du bus vivants à leur destination. Non, faut aussi s'occuper des gens dehors. Et ce qui sera intéressant par la suite, c'est de voir s'il y a une baisse effective et significative du nombre de morts chez les piétons qui pourraient se prendre un bus, et voir si en opposition il y a une augmentation du nombre d'arrêts cardiaques provoqués par les sons qui arrivent dans les casques. J'ai lu également, je pensais que ça allait être plus drôle. J'ai lu également qu'en France, nous passons en moyenne 4 heures par jour sur notre smartphone. Je me suis dit, mais c'est énorme, j'ai fait combien de temps donc sur la semaine? J'ai passé en moyenne 7,13 heures par jour sur mon téléphone. Me voilà dans l'angoisse. Je peux voir les applications les plus utilisées, donc Finder pour les fichiers, 2h30, ouf, c'est pour du travail. Calculette, 2h20. Wow. Apparemment, j'ai fait beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Je regarde Instagram pour voir combien de temps, je vois 1h19 par jour, donc pour la semaine. Je me questionne et je dis non, c'est pour la semaine. Parce que j'ai pas utilisé la calculette 2h20 par jour. Donc 1h19, 79 minutes divisé par 7, 11 minutes 28, ok. Donc le calcul est très simple, je reste 11 minutes par jour aux toilettes.
Merci Tania Vitel, on est ravis. Vraiment ravis de le savoir. Merci. Non, c'est pas si long. Ouais.
Parce que je veux un stack sur les toilettes maintenant.
On vous retrouvera seulement au mois de juin, Tania, puisque vous partez jouer votre spectacle à Londres ce vendredi et dans plusieurs villes d'Australie, la chance du 13 au 21 mai. Et à Nouméa,
oui.
Oh, le 24 et 25 mai.
Ça a un bilan carbone.
Profitez bien,
ouais,
en tout cas.
Ouais. Mais je voyage pas dans la vie, moi.
C'est la vie d'artiste, Cyril. Jouer. Vous connaîtrez un jour. Merci Hubert Béroche d'avoir été avec nous cet après-midi pour tout nous raconter sur le phénomène des smombies. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Smombie, la ville à l'épreuve des écrans, sorti aux éditions de l'Aube. Merci encore. Zoom Zoom Zen.